Tout de suite, 3D, le journal en direct et en public. Et on va essayer de comprendre avec vous, Stéphane Paoli, un mot que je vous avoue que je viens de découvrir, la zététique.
Ah oui, c'est un joli mot, zététique. C'est qui recouvre un enjeu passionnant, l'art du doute. Le poète Le Tréamont disait une chose magnifique à propos de ça. Le doute est un hommage rendu à l'espoir. Et donc, pour ce 3D, des jeunes enseignants en mathématiques, en physique, en géopolitique, avec lesquels nous allons échanger sur cet enjeu passionnant, celui du doute.
3D, le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Alors pour évoquer, alors est-ce que nous parlerons de la zététique ou parlerons-nous peut-être plutôt de l'autodéfense intellectuelle? C'est eux qui vont nous dire, et peut-être ont-ils une préférence pour l'un ou l'autre mot ou formule. Nous en parlerons avec vous, Guillemette Reviron, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre présence. Docteur en mathématiques, cofondatrice du Cortex, ça veut dire collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et sciences. Vous êtes aussi chargée de cours en autodéfense intellectuelle à l'Université de Montpellier et intervenante à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault. À vos côtés, Denis Carotti, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Professeur de sciences physiques dans le secondaire à Marseille, cofondateur, vous aussi, du Cortex, formateur pour enseignants dans les académies d'Aix-Marseille et Grenoble sur la thématique science, esprit critique et autodéfense intellectuelle. Et puis Idriss Aberkane, bonjour Idriss Aberkane.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes professeur en économie et géopolitique de la connaissance à l'école centrale et vous êtes chercheur à l'école polytechnique et affilié à l'université de Stanford. Alors, l'art du doute, la zététique, j'ai 1000 questions à vous poser, importantes pour un journaliste, parce que pour les journalistes en général, le doute, c'est quelque chose, évidemment, non seulement de nécessaire, mais quelquefois de salutaire. Mais ma chère Aurore, bonjour Aurore Vincenti.
Bonjour.
Un mot peut-être pour commencer, lequel?
Si je vous dis sceptique, est-ce que vous êtes dubitatif, cher Stéphane?
Non, allez-y.
Vous devriez être dubitatif.
Quand on est sceptique, on est forcément un peu dubitatif, mais allons-y.
Alors, sceptique est un nom et un adjectif. Lorsque quelqu'un est sceptique, on dit de lui ou d'elle que c'est un ou une sceptique. Et soyons honnêtes, dans le langage courant, le sceptique est ce qu'on appelle un emmerdeur. Ben oui, vous voyez bien cette situation où vous expliquez quelque chose à quelqu'un et il vous répond « Ah écoute, je sais pas, honnêtement, je suis sceptique ». Alors là, pour vous rassurer, vous vous dites « ce type est toujours dans la contradiction », mais au fond, ça ne vous fait pas plaisir. Le sceptique remet toujours tout en question, il ne cesse de pinailler. Mais j'ai bien dit qu'il s'agissait des connotations contemporaines du terme, dans un contexte très quotidien. Et puis en plus, je n'ai pas peur d'offusquer nos invités, puisqu'ils ne sont pas sceptiques, mais zététistes... Zététiciens, d'accord.
Et zététiciennes.
Bon, c'est un nom un peu compliqué quand même. Moi, je suis tombée dessus au sujet de l'émission. Je ne l'avais jamais vu avant. Je ne le connaissais pas. J'ai même cherché dans l'ancienne version du Robert historique de la langue française, pas celui-ci, qui est plutôt récent. J'en ai une autre. Il n'y est pas. Mais dans celui-ci, il apparaît. Donc, on est content. Mais je ne suis pas là pour vous parler de zététes et zététiciens, mais de sceptiques, puisque vous allez nous parler de zététiciens après. Le lien entre zététique et sceptique est simple, a priori. Les zététes sont des sceptiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Et on commence avec un monsieur qui vécut à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Son nom était Pyrrhon d'Élis, père fondateur du scepticisme. Enfin, là encore, il vaut mieux douter de tout. Si ça se trouve, c'était sa femme, à ce brave Pyrrhon, qui avait tout pensé. Ou son meilleur pote, à qui il aurait tout chouré, le concept, la philosophie. On arrête les bêtises.
Et pourquoi, après tout? Doutons, ma chère.
Bon, on ne va pas se lancer dans un cours en ondes sur le scepticisme, mais posons tout de même quelques idées clés. Il s'agit d'une philosophie du doute qui préconise de suspendre son jugement. Le doute et l'examen critique jouent alors un rôle de puissance exploratoire qui permet de connaître sans s'enfermer dans des certitudes. Mais voilà, c'est moi qui l'ai écrite cette définition. J'ai eu un peu les jetons parce que comme je ne suis pas lexicographe, je me suis dit, oula, je suis en train de m'embarquer dans un truc. Je suis ni philosophe, ni lexicographe, j'ai inventé un truc.
On finit comme à l'arrêt. Hein.
Bah, c'est ça. Écoutez, franchement, c'est une belle fin. Hein.
Ah bah, d'abord, elle n'est pas finie.
Bah non, vous m'avez dit, on finit comme à l'arrêt. Ne me faites pas dire que je vais finir à l'arrêt. Bon, il faut que je sois sérieuse. Mais si, nous allons voir du côté de l'étymologie, parce que ça, c'est très intéressant. On obtient une définition simple qui relie deux choses, l'œil et la pensée. Le verbe grec « skeptestai », signifie observer, considérer. Il est issu d'une racine indo-européenne, skep ou scope, qui veut dire regarder et qui a donné télescope, mais aussi spectacle, par exemple. J'en reviens à ce regard. Le mot nous dit qu'il faut observer, nous mettre en retrait, pour voir, d'une part, mais pour tâcher de comprendre. L'œil joue le rôle d'un prisme entre nous et le réel. Et le sceptique accorde une importance toute particulière à cette action d'observer qui le retient de juger ou de préjuger. Et après, me direz-vous, on peut s'enfermer dans son regard. On peut passer sa vie à regarder par la fenêtre et ne jamais sortir de chez soi. Et voir cette suspension du jugement comme une fin à part entière. C'est une critique adressée au sceptique. Mais au fond, le mot sceptique insiste sur cette étape-là de la démarche. Comme une mise en garde, n'oubliez pas de regarder, n'oubliez pas de douter. Après, agissez. Et au fond, c'est ce que Descartes fait ou faisait. Il s'assurait de la solidité des fondations de tout ce qui était édifié. Il doutait, questionnait et d'une certaine façon démontait tout pour reconstruire. Il ne s'agissait pas simplement de poser un regard destructeur sur le monde, mais de le dénuder pour l'habiller ensuite d'une nouvelle lumière.
Il y a eu de si beaux esprits qui étaient dans, j'allais dire, dans cet état d'esprit, pardonnez la facilité, mais le que sais-je de Montaigne relève un peu de ce que vous venez de dire aussi, Aurore. Et puis, Caroline Cartier, qui n'a pas voulu non plus s'éloigner de cet espoir magnifique qui est porté par le doute, pour reprendre un peu l'autre amont.
Le doute ?
Attention, question. Le doute.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Esprit critique, es-tu là ?
Nous devons dire qu'ici, la République aime tous ses enfants et ne laissera personne mettre le doute dans ce que peut être la République.
Esprit critique.
Qu'il s'agisse de vol ou de profanation, 206 cimetières chrétiens, 6 cimetières juifs et 4 carrés musulmans ont été vandalisés l'an dernier.
Qu'en dis-tu ?
Esprit critique.
Qu'en penses-tu ?
Ces mouvements de haine sont-ils à mettre dans la catégorie du mimétisme des crétins ? Après le cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin, de nouvelles profanations ont été constatées à Tracy-sur-Mer dans le Calvados, Saint-Béar dans la Haute-Garonne, mais aussi Issoudun dans l'Indre et Chaland en Vendée, avec des dizaines de crucifix renversés ou retournés.
Mettre le doute.
Le doute. Attention. Question.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République.
Esprit critique, es-tu là ?
Monsieur Hollande a menti.
49-3. Il ment le matin. Il ment
à midi. Qu'en est-il vraiment ?
Il ment le soir.
Qu'en dis-tu ?
Il ment à la
que vois-tu ?
Il ment aux Français.
Le doute.
Et regardez ça.
Le doute. Attention. Question.
Le doute. Attention. Question.
Je suis ému de nous voir comme ça, tous ensemble contre cette haine, contre ces crimes commis ici au Danemark, mais aussi à Paris.
Qu'en dis-tu ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Lorsque soudainement, des tirs par dizaines la panique puis le silence.
Esprit critique, es-tu là ?
Le caméraman a entendu le coup de départ du mortier. Il cherche précipitamment un abri, il se jette dans un fossé. À quelques dizaines de mètres, l'obus a explosé sur un pipeline.
À minuit, le cessez-le-feu était censé commencer. Et regardez ça.
Es-tu là ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le doute.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Grande question, mine de rien, qu'est-ce que ça veut dire ? Denis Carotti, professeur de sciences physiques, cofondateur du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences. Ce qui me frappe, c'est que vous êtes tous les trois, Idriss Aberkan, Guillemette Reviron et vous-même, très jeunes. Vous êtes tous les trois enseignants. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser avant, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui, tout à coup, pousse une génération comme la vôtre à dire, attendez, là, on pose un peu et on réfléchit, mais on doute. On doute pour comprendre.
Oui, la question est vaste. Je crois que chacun est venu à la zététique, ou en tout cas au scepticisme, par différents moyens et par différentes voies. Je vais parler juste en mon nom, mais en tout cas, je pense qu'on a tous été perdus, peut-être, par, à travers notre éducation, le manque de moyens. On va parler d'autodéfense intellectuelle, le manque d'outils dont on avait pu, en tout cas, bénéficier pour essayer de juger de tout type d'affirmation, en fait. Et, par exemple, moi, en physique, c'était assez simple. On me parlait d'astrologie. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'étais incapable d'appliquer les outils que, normalement, dont on doit disposer grâce à la méthode d'analyse, appelons-la démarche scientifique, pour essayer de juger de la pertinence de ça. Et ça, c'était assez frustrant, en fait. Comment pouvait-on arriver à essayer d'expliquer ? Il y avait cette envie aussi d'expliquer, de donner les outils. Moi, j'en étais incapable. Il a fallu donc se former. Il a fallu donc aller trouver des personnes qui étaient capables aussi de m'enseigner ces outils pour me défendre intellectuellement et pour aussi ensuite les répercuter et être capable de donner à chacun les moyens de faire ses choix en connaissance de cause. Parce que, évidemment, il n'y a rien de prescriptif dans, je crois, dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Il y a cette idée que l'art du doute n'est pas quelque chose qui va donner, qui va obliger les gens à croire ce que nous l'on croit, mais au contraire de dire, voilà, vous voulez croire, croyez, mais faites-le avec les bons arguments, faites-le avec des raisons en tout cas. Et quand on va vous exposer peut-être des choses que vous n'avez jamais entendues, vous aurez peut-être les moyens de juger par vous-même.
Donc, mais je reviens à cette jeunesse magnifique qui vous habite tous les trois. Moi je dis zététique, Aurore s'interroge sur les mots zététiques, et vous dites autodéfense intellectuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si vous dites autodéfense, considérez-vous que les générations qui vous ont précédé avaient peut-être perdu cette posture, cette façon d'interroger la réalité pour essayer de comprendre ce qui se passe? On ne fait pas de l'autodéfense par hasard. Quand on y arrive, c'est qu'il y a bien un problème qui se pose quelque part.
Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le mot autodéfense intellectuelle? Je crois qu'au départ, il a... C'est tout ce qu'on vient d'entendre, en fait, dans les extraits qu'on a vus, c'est l'enjeu du quotidien. On vit avec des personnes. Comment est-ce qu'on peut être, comment peut-on nous-mêmes trier dans ce flot d'informations que l'on reçoit? C'est ce que je dis aux élèves. Je leur dis, vous prenez votre téléphone portable, on en discutait tout à l'heure, vous avez accès à toutes les informations dont que vous voulez. Comment, par contre, allez-vous faire le tri? Comment allez-vous vous positionner par rapport à tout ça? Alors, est-ce que les anciennes générations n'insistez pas dessus, j'avoue que j'ai pas assez de recul, et comme dirait Piron, je suspends mon jugement, là, ne pouvant pas vous répondre.
Allez-y, bien sûr, Guy Maître-Viron, si vous avez envie d'intervenir.
Oui, alors je voulais juste dire, il faut peut-être un peu se méfier des apparences, parce qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas si jeune que ça.
Oh, vous êtes dur avec vous-même, là.
Je sais pas à partir de quand on est plus jeune, on peut en discuter, mais... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le mot zététique, par exemple, on l'a repris de la personne qui l'a remis au goût du jour, qui s'appelle Henri Brock, et qui, aujourd'hui, part à la retraite. Donc voilà, on s'appuie aussi sur les générations passées. Le terme d'autodéfense intellectuelle, pour ma part, alors je ne sais pas si c'est lui, mais...
Henri Brock, professeur dans la de physique, non, si ma mémoire est bonne,
oui,
à Sophia Antipolis.
À Sophia Antipolis, tout à fait. C'est le premier à avoir monté un laboratoire de zététique universitaire à Nice. Et les cours sont repris aujourd'hui par d'autres à Nice. Et sinon, y a le terme d'autodéfense intellectuelle, je disais, moi je l'ai entendu dans la bouche de Noam Chomsky, qui n'est pas tout jeune non plus, donc un grand intellectuel.
Et qui, comme Aurore, un peu plus qu'elle-même, s'interroge toujours beaucoup sur le langage et
tout
la portée du langage, évidemment.
Tout à fait, sur la fabrique du consentement et sur la politique impérialiste des États-Unis, etc. Donc oui, on n'invente rien en fait, hein. On reprend, on regroupe du matériel pédagogique, intellectuel, mais on s'appuie vraiment sur les générations passées qui ont beaucoup, beaucoup travaillé.
Oui, mais enfin, c'est pas, là aussi, ça n'est pas indifférent de voir apparaître tout à coup une sorte de courant qui va en gros de Grenoble à Montpellier en passant par Marseille et probablement ailleurs, où quelque chose s'organise, et vous dites vous-même que vous êtes un collectif. C'est-à-dire qu'il y a une pensée en réseau aussi qui s'organise à partir de cet enjeu du doute.
Ça a été l'objectif, en fait, de la création de ce collectif. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Guillemette, on a été formés, on s'est tous un petit peu, en quelque sorte, aguerris auprès de, notamment Henri Brock, qui a été un des premiers à mettre en œuvre cet enseignement assez clair de ce qu'on appelle esprit critique, démarche scientifique, zététique. De regrouper toutes les ressources, toutes les personnes qui, dans leurs enseignements, étaient capables, faisaient de parler d'esprit critique. Ça a été notre but premier. C'est-à-dire qu'on était tous éparpillés. Comment pouvions-nous fédérer toutes ces personnes-là qui, comme vous l'avez dit, dans plusieurs villes de France faisaient déjà ça, peut-être parfois sans le savoir. Guillemette disait, on met des mots parfois sur certaines choses, c'est vrai, mais les personnes font ça. Il y en a beaucoup, des enseignants, le site du Cortex est rempli de ces ressources pédagogiques que l'on tente de regrouper quand les personnes nous en font part et quand ils veulent bien nous raconter ce qu'ils ont fait.
Mais ce qui est intéressant dans cette posture générale qui est la vôtre, pour reprendre le mot scepticisme qu'Aurore nous présentait en début d'émission, c'est un scepticisme provisoire. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre et vous rentrez dans la matière des choses ou des questions pour justement arriver à leur réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, elle a dit deux choses, je pense, Aurore, qui m'ont parlé, c'est au moins. C'était d'abord le fait que le doute était un moyen et que pour exercer ce doute, non comme un moyen, il y avait une technique, une démarche qu'il fallait tenter d'appliquer. Le doute n'est pas une fin, en fait. Et c'est ça qui est important, je crois que vous l'avez bien souligné. On se sert du doute pour aller examiner. Skeptikos en grec aussi, c'est ça, c'est examiner, vous avez dit observer. Alors, allons examiner les propos des personnes qui nous parlent. Allons examiner les affirmations. Essayons de savoir si ce que l'on a en face de nous, c'est plutôt réel ou c'est plutôt faux. Et pour faire ça, on est obligé de parler de science. Parce que qu'est-ce que la science, si ce n'est cette démarche intellectuelle qui permet finalement de dire des choses les plus vraies possibles sur le monde qui nous entoure? Alors évidemment, ce n'est pas la seule qui permet de dire des choses sur le monde qui nous entoure, mais elle a été forgée pour arriver à faire ça. C'est la seule démarche autocorrectrice qui arrive à, justement, enquêter. Je crois que le mot enquêter, il est parfaitement adapté sur ce qu'on fait tous en réalité, pour à un moment donné pouvoir trancher entre ce qui est plutôt vrai et ce qui est plutôt faux.
Mais cette autodéfense, c'est une tâche immense, parce que vous êtes soumis à une pression effrayante. Il faut d'ailleurs qu'on se mette peut-être un peu en cause aussi, Aurore, celle des médias.
Oui.
C'est-à-dire du flot continu,
oui.
De l'image continue,
oui.
Des mots continus, des idées continues et quelquefois qui ne sont pas mises en perspective, tout ça sans arrêt.
Oui.
Comment vous faites avec ça ?
Ouais. Je vais peut-être revenir sur le principe en fait de la zététique et je vais revenir aussi à la définition. Quand Henri Brock a essayé de réintroduire ce mot zététique qui avait plus ou moins disparu de la langue française, il avait pour objectif de se détacher de la connotation assez péjorative du mot scepticisme. Il faut savoir que le mot sceptique, il est utilisé dans le monde anglo-saxon pour désigner à peu près le même courant de pensée et les actions de divers sceptiques donc, dans le monde entier. En France, c'est plutôt zététique. Pourquoi ? Donc pour se détacher de la connotation négative. Henri Brock, dans ses enseignements, remarquait que parmi tous ses étudiants, il y avait quand même, parmi eux, beaucoup qui continuaient à adhérer, à croire à ce qu'on pourrait appeler les phénomènes paranormaux, les pseudo-sciences, alors qu'ils étaient en cours de science. Donc la question que s'est posée Henri Brock légitimement, c'est « alors, j'enseigne normalement une méthode qui permet de faire le tri en ce qui est plutôt vrai, entre ce qui est plutôt vrai et plutôt faux. Or, mes étudiants continuent à adhérer à des choses qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas fait la preuve de la résistance. » Eh bien, il a retourné la chose, en fait. Il s'est dit, et si, justement, pour apprendre cette méthode, je n'utilisais pas les phénomènes étranges et bizarres, surnaturels, pour décortiquer, pour apprendre à mener l'enquête, pour apprendre à détecter les biais de raisonnement, pour apprendre à mener cette démarche expérimentale, parfois, parce qu'il faut tester ce que l'on a en face de nous.
Attendez, est-ce que je comprends bien ? C'est-à-dire que vous, le prof de physique,
oui.
À un moment donné, vous vous dites, bon, alors allons-y à fond dans l'astrologie.
C'est exactement ce que je fais avec
moi. Moi, je suis scorpion, je ne suis pas un méchant qui a une queue qui pique et ça va mal finir.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous me répondez quand je vous dis ça ?
C'est exactement...
On rigole.
On rigole beaucoup. Je pourrais reprendre l'exemple. Sur la démarche, c'est initialement ça, c'est donc effectivement s'intéresser, enquêter, avoir un regard critique sur ces phénomènes étranges, pour arriver dans un contexte qui est plutôt, alors à la fois je dirais le mot sexy parce que ça intéresse les élèves et les étudiants, mais aussi parce que c'est un moyen assez vertueux d'arriver à parler de choses complexes parfois, parce qu'elles nous remettent en question. Or, d'arriver à en parler sur des choses qui sont peu engageantes en réalité, quand on va parler d'astrologie, bon, on peut tomber sur des personnes qui sont très très impliquées, mais c'est rare. Donc on va pouvoir apprendre cette technique, cette méthode de décortiquage, d'analyse critique, pour la transposer plus tard, et c'est pour ça qu'on va l'étendre, et on va plutôt sortir du champ de la zététique, qui était initialement cette méthode d'investigation des phénomènes étranges, à tout ce qui est pédagogie critique, apprentissage de la démarche, pour l'appliquer à tout type d'information, du moment qu'elle se revendique disant quelque chose sur la réalité. Quand un homme politique va nous dire, ben voilà la politique qu'il faut conduire parce qu'elle va fonctionner, il a une prétention de type scientifique, en fait. Quand un économiste nous dit, moi, là, ce que je vais proposer là, c'est quelque chose qui va fonctionner. Lorsqu'un thérapeute nous dit, je vais vous soigner, c'est la même chose en réalité que lorsqu'un astrologue nous dit, ce que je vous dis va arriver. Quelles sont les techniques qui nous permettent de décortiquer ça et d'analyser ?
Et là encore, le vaste programme, comme disait naguère le général, dans une société où même la politique, la parole politique, est soumise à la mise en perspective par des spin doctors qui font en sorte que le discours politique réponde, au fond, à une sorte de demande collective qui soit très normée, qui soit très lisse. La zététique devient peut-être une nécessité. Je comprends mieux, du coup, votre posture d'autodéfense intellectuelle.
Bien sûr. Je crois que c'est, en tout cas, comme le rêvait Noam Chomsky, on essaie tant bien que mal de l'exercer, nous aussi, cet enseignement de l'art du doute, l'art en tant que, on ne l'a peut-être pas précisé, qu'ensemble de techniques qui permettent d'exercer son jugement critique. On essaie de l'exercer dans des domaines qui peuvent paraître parfois très éloignés. Je parlais des phénomènes paranormaux, et puis on a des cours d'enseignement sur les sciences et pseudo-sciences politiques, par exemple, à Grenoble. Le cours de Richard Monvoisin, qui regroupe plus de 800 étudiants par an, parle effectivement de zététique et d'autodéfense intellectuelle, parce que c'est au cœur du processus intellectuel de démarrer, et c'est comme ça que nous, on le vit, dans la forme de ces phénomènes étranges, surnaturels, disons, et de les étendre à tout ce qui est peut-être aussi du quotidien, sciences politiques, sciences économiques, thérapies alternatives, qui nous touchent certainement plus, peut-être, que certains phénomènes étranges.
Mais cela vous permet-il aussi de comprendre pourquoi nous sommes à ce point tant sensibles à ces phénomènes étranges ? Pourquoi nous sommes tellement attirés par ces théories, et pour certaines d'entre elles complètement délirantes, mais qui néanmoins trouvent un écho en nous ? Qu'est-ce qui nous arrive quand on fait ça ?
Ouais. Je crois que c'est, enfin, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, les biais cognitifs et biais de raisonnement qui nous permettent parfois d'adhérer à certaines de ces pratiques, mais comme à n'importe quel type de discours, hein, en réalité, sont à peu près les mêmes pour nous tous. On n'est pas immunisé contre ça. Et donc, d'arriver à les détecter, peut-être Guillemette tout à l'heure l'évoquera, mais quand j'entends, par exemple, une étude qui va me dire « jouer aux jeux vidéo entraîne plus de dépression chez les adolescents », tout de suite, en moi, je me dis « tiens, c'est une corrélation qu'ils ont détectée, mais est-ce que c'est forcément une causalité ? Et puis dans quel sens elle va, cette causalité ? Est-ce que ce n'est pas le fait d'être plutôt déprimé qui conduit à jouer aux jeux vidéo ? Et cette espèce de, cette sorte de tamis qu'on va exercer sur les informations que l'on reçoit, c'est celui qu'on travaille en fait dans ces cours-là. Qu'on essaie de travailler et qu'en fait les collègues travaillent au quotidien. Ils font ce que je disais sans le savoir. Donc quand on leur dit, t'as vu, tu parles de corrélation et causalité, ben, très bien, dis-nous comment tu fais, quels exemples tu prends. Je pense que voilà, Guillemette y reviendra tout à l'heure. C'est les biais, en tout cas, qui nous amènent à continuer à adhérer, sont complexes.
J'imagine. Mais une question encore de Nika Roti, qui est celle-là, pas complexe, mais difficilement contournable. Nous sommes dans le temps de la vitesse. Les outils que nous utilisons sont des outils de la vitesse. Internet et les réseaux sociaux ne cessent d'accélérer. Or, le doute, ce doute dont vous nous parlez si bien, demande du temps.
Oui.
Et c'est une temporalité différente. La réception d'un phénomène, il m'arrive de citer quelquefois le cas du Concile de Trente, près de 5 siècles de réception. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce que ça change ? Et nous sommes désormais dans la culture Google. Toute question posée a sa réponse immédiate. Comment on insère le doute là-dedans ?
Méthodologie d'enquête. Alors, vérifier les sources de l'information. Finalement, on va parler du travail journalistique aussi. Vérifier la source de l'information, confronter les sources d'information, qui parle, de quel endroit on parle, vérifier les liens d'intérêt. Premier travail, en fait. On ne peut pas baser une recherche si les informations que l'on possède ne sont pas sûres, en tout cas si on n'est pas allé les vérifier. Deuxième temps, essayer de se confronter, de confronter ces affirmations avec un test peut-être expérimental, car en réalité, si c'est pour ça qu'on parle de démarche scientifique, tous ici, on pourrait raconter n'importe quoi sur la réalité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce que je raconte et ce que vous allez raconter, si ce n'est la confrontation avec la réalité ? Je prenais l'exemple, on en parlait tout à l'heure avec Guillemette. Hier, j'étais en famille et on discutait d'une affirmation assez simple que je n'ai pas relevée parce que souvent, comme on disait, sceptique, c'est aussi parfois un peu pénible, même au sein de sa famille. Une affirmation aussi simple que de dire les garçons ou les filles, qui dessinent le mieux ? Les filles dessinent mieux que les garçons. Très bien. Sur quoi constate-t-on ? Est-ce qu'on déjà on constate ça ? Et comment pourrait-on le constater ? C'est pas si simple. Comment va-t-on juger si un dessin il est plutôt bien fait ou mal fait ? Ça, c'est le propre d'une expérimentation scientifique. Quels sont les paramètres que l'on va vérifier, que l'on va tester ? Comment peut-on être sûr qu'on n'est pas en train de vérifier ce que l'on croit déjà, qu'on confirme en réalité nos attentes ? Le fait de voir un joli dessin, plus souvent, on va confirmer que c'est bien une fille, sauf que quand c'est pas très bien, on va dire oui, mais celle-là, c'est pas vraiment une fille peut-être, ou elle ne dessine pas très bien celle-là, mais les autres en général elle les dessine bien.
Et du coup on commence à induire la théorie du genre dans le débat,
voilà,
mine de rien.
C'est exactement ça. J'insiste, c'est cette transposition en réalité quand on dit quand on a des affirmations de type raciste, en réalité, elles sont en général fondées sur ce qu'on a pu constater, nous, mais qui sont certainement des biais de raisonnement. Par exemple, j'ai vu peut-être tel type de personnes procéder à tels actes, et donc j'en déduis que ces personnes-là commettent ce type d'actes en général.
Il y a eu des débats politiques, on en parlera dans un instant d'ailleurs avec Guillemette Reviron, mais des débats politiques surréalistes là-dessus, à partir de chiffres dont on se demande d'ailleurs ce qui signifiait et où ils étaient pris. Aurore, quelques mots là
En fait, il y en a une quinzaine que j'ai relevé, donc je vais en choisir deux. Un que vous avez répété à plusieurs reprises, c'est le verbe « enquêter », qui m'a bien plu et qui vient avec un autre que vous avez dit au tout début, « expliquer ». Bon, alors « enquêter », il y a ce préfixe « in », en « en », ça vient du latin « in », hein, à l'intérieur. Donc on va chercher la quête, hein, « quêter », on va chercher, mais même « demander hein, », « quérir », »,« s'enquérir », »,« quêter », tout ça, c'est la même famille de mots. Donc on va demander à l'intérieur, on va aller fouiller à l'intérieur. Et là, on tombe sur un sac de nœuds, qui est celui de l'explication, puisque dans l'explication, on a le mot « pliquer hein, », c'est le même que dans « complexe »,« plexus », « perplexe ». Eh bien, ce « plexus », c'est littéralement un entrelac, une espèce de boule de nœuds. Et donc, quand on explique, on va mettre la main dans le sac de nœuds et on tire sur les fils pour les faire sortir, pour déplier, pour détresser. Alors, après, on pourrait aussi revenir sur une explication plus deleuzienne où il parle, lui, non de plexus, mais de pli. Et donc, dans l'explication, il y aurait comme une feuille pliée et donc on déplie progressivement pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est caché, ce qui n'est pas accessible à première vue, je vais dire. Et ça, pour expliquer, pour dénouer et délier tous ces nœuds, mais justement, on rentre en compte cette fameuse idée de la temporalité que vous avez mise en avant, Stéphane, qui est si importante parce que c'est tellement noué qu'il faut du temps.
Bien sûr, oui. Mais c'est là aussi où se trouve cette complexité si souvent évoquée ici et là, et notamment, encore une fois, par Edgar Morin, on a fait des thèses et des thèses de cette forme de complexité où tout bouge en même temps et où la grille de lecture devient très difficile, bien sûr, et souvent improbable. Alors vous, Guillemette Reviron, ce qui est vraiment très intéressant, docteur en mathématiques, vous n'êtes pas simplement cofondatrice du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et Sciences, mais aussi docteur en mathématiques. Y a-t-il, vraiment, je vous pose une question de candide, mais pour de bon, le langage mathématique, la forme mathématique permet-elle mieux de répondre aux questions qui se posent à nous aujourd'hui? Y a-t-il moins de doutes dans ce champ-là qu'ailleurs? Ou y en a-t-il autant?
Ouh là là. Alors j'ai plutôt parlé de la manière dont les chiffres sont reçus. Je crois qu'aujourd'hui, quand on va asseoir un discours, quand on va avoir l'air très intelligent, c'est bien de maîtriser la langue de bois et c'est bien aussi de maîtriser, de sortir de son chapeau 2-3 chiffres passés par-ci, par-là. Et tout d'un coup, on a l'air d'avoir bien compris, bien cerné la situation. Et en face, tout le monde se tait. Sortir un chiffre, c'est presque aussi fort que de sortir un diplôme de docteur en maths comme argument d'autorité. À partir du moment où quelqu'un sort un chiffre, plus de contradictions. C'est assez terrible. Je trouve que c'est assez terrible. Et il y a un gros travail à faire pour décomplexer, en fait, tout comme on peut le faire avec la langue de bois, d'apprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on sort un chiffre qu'on est intelligent. Je vous en donne un, par exemple. Je vais peut-être vous étonner, mais il y a un grand lobby, mais un énorme lobby de l'industrie des sous-vêtements. Et c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mais pourtant, les sous-vêtements, c'est très dangereux. Porter des sous-vêtements, c'est très, très dangereux. La plupart des gens qui ont un cancer des testicules portent des sous-vêtements. Je vous assure, Stéphane Paoli, personne n'en parle jamais.
Vous pouvez, si vous voulez, mesdames et messieurs, commencer à évacuer le studio un par un. Et on devrait peut-être s'en sortir, mais c'est même pas sûr.
Crise de cancer des testicules. Oh, c'est formidable. Donc, j'ai eu un moment de doute.
Vous avez un moment de doute.
Non, attendez, on rit, mais malheureusement, vous nous racontez quelque chose qui a été dit et qui a trouvé un écho.
Alors, évidemment, si je transpose le discours, on peut avoir, Monsieur Stéphane Paoli, il y a vraiment un problème avec l'industrie du téléphone portable. La plupart des gens qui ont un cancer du cerveau...
Je me suis dit, elle partait sur mes sous-vêtements, j'étais foutu, là.
La plupart des gens qui ont un cancer du cerveau avaient un téléphone portable. Ouais. Oui, et là, ça sonne tout à fait, tout d'un coup, complètement différemment. Et on se laisse embarquer, en fait. Et malheureusement, quand j'ai commencé Bon, j'ai toujours été très en colère quand j'ai remarqué que ma passion pour les mathématiques était loin d'être partagée par tout le monde. J'étais très en colère vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'abus de faiblesse mathématique. Et je me disais, oh là là, tous ces gens qui ne partagent pas ma passion, les pauvres, ils sont vraiment vulnérables vis-à-vis des chiffres. Et donc j'avais un peu cette attitude condescendante, mais qu'on a tous. Je veux dire, aujourd'hui, on entend parler d'esprit critique sans arrêt. On dit les journalistes dans les médias, etc. Mais vous savez, les jeunes des banlieues, les détenus, ce serait bien de leur en faire un peu plus. Je peux peut-être transmettre un message, même si je n'ai pas été mandatée pour ça, par les détenus que je rencontre. Mais ils disent la même chose. Ils disent, oh là là, tous ces journalistes, il ferait bien d'avoir un peu plus d'esprit critique. Mmh. Et donc, en fait, tout le monde est d'accord pour que les autres s'outillent. Et nous, on est d'accord avec tout le monde, parce qu'on pense que tout le monde doit s'outiller. Et j'ai beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré ma longue et très longue formation en mathématiques, je me fais encore avoir par des discours comme ça. Et donc régulièrement, je tire des exemples sur lesquels je me suis fait avoir. Il a fallu que je me les fasse expliquer. Voilà, j'ai lu quelque chose. Et puis je raconte aux étudiants comment je me suis fait avoir aussi. Et je crois que c'est se croire fort vis-à-vis des chiffres, ça nous rend vulnérables.
Mais moi, les mathématiciens ont toujours quand même des systèmes des protocoles de pensée, d'analyse, de réflexion qui sont solides, qui sont bien faits, qui sont robustes. C'est un mot que vous utilisez, je crois, en mathématiques. Et vous avez des principes, vous, les zététiciens. Alors, on va en lister quelques-uns parce que je les trouve vraiment intéressants. On a tous droit au rêve, mais ce droit au rêve implique une nécessité de vigilance.
Un devoir de vigilance.
Devoir de vigilance. Et ce devoir-là, vous, en tant qu'enseignante, et aussi en prison, quand vous êtes en taule avec les taulards, comme vous dites...
Oh, je ne dis pas les taulards.
Vous ne dites pas les taulards.
Enfin, peut-être qu'ils s'appellent comme ça. Oui, oui, je sais pas.
Souvent, ils parlent d'eux comme ça aussi. Vous leur parlez de quoi, au fond? Vous leur dites quoi?
Alors... J'y vais déjà pour animer un atelier d'analyse des médias. Quand j'ai débarqué là-bas, je me disais, je vais leur expliquer pourquoi les médias, c'est pourri, il faut se méfier hein, quand même. Tout ça. Puis en fait, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à leur expliquer. C'est pas des gens bêtes, c'est des
Bien
gens
sûr,
pauvres
oui.
à la rigueur. Mais ils avaient compris beaucoup de choses. Donc en fait, quand j'y vais, je crois que... Je mets des mots sur ce qu'ils ont compris, j'affine un petit peu peut-être une certaine vision des médias. Tout à l'heure, vous disiez comment vous travaillez avec le temps, la temporalité médiatique. Je crois que, par exemple, de faire travailler un groupe d'étudiants sur un sujet d'enquête de son choix, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. On leur donne des cours et on leur donne un sujet d'enquête qu'ils choisissent. Ils travaillent à 3 ou 4. Et ils vont travailler pendant un mois et demi à enquêter. Ils se rendent bien compte que, du coup, il faut du temps. Il faut du temps pour vérifier les informations, etc., etc. Mais le deuxième effet de ça, c'est qu'ils se rendent bien compte que du coup, un journaliste qui a une demi-journée pour préparer un sujet, il n'a pas le temps d'aller faire le tour des sujets, etc. C'est de ça qu'on parle, en fait. C'est que s'il y a des problèmes sur la qualité de l'information aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'il y a une censure ou qu'il y a une pensée ou un complot de l'ensemble des journalistes pour nous transmettre une information biaisée. Il va falloir aller comprendre un peu plus finement tous les processus qui amènent à cette information-là. Parce que si ça nous met en colère, on peut rester avec cette colère-là. Mais le but, c'est d'essayer de changer les choses. Et pour changer les choses, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut un peu de temps. Il faut analyser, il ne faut pas se baser sur nos intuitions qui souvent nous trompent. Il faut aller regarder un peu plus précisément. Et effectivement, un des gros problèmes qui mène à une information biaisée de mauvaise qualité, c'est la temporalité médiatique.
Bien sûr, mais cette autodéfense collective, dans une société qui est de plus en plus, et qui probablement le sera encore plus dans les temps qui viendront, société des images, comment... insérer cet enjeu du doute dans la lecture des images. J'étais récemment dans un lycée en Balagne, en Corse, pour en parler avec des élèves qui sont en classe de philo, qui avaient tous été, bien sûr, très frappés de ce qui s'est passé au moment de Charlie. Et nous avons beaucoup parlé des images. Nous avons, par exemple, parlé de l'image du pilote jordanien en train de brûler dans une cage. Alors, moi, j'ai posé la question de qu'est-ce que ça vous dit ? Et une jeune fille s'est levée et m'a dit « c'est l'enfer ». J'ai dit, oui, c'est l'enfer. Mais si, regardons cette image, puisqu'après tout, vous l'avez tous, ils l'ont tous sur leur iPhone, hein, ou leur, ou je ne sais quoi, quelle marque, on s'en fiche, mais ils, sur leur téléphone portable. C'est l'enfer. Alors regardons l'enfer, et qu'est-ce qu'on y voit dans cet enfer ? Alors on y voit une cage. Pourquoi ? Pourquoi une cage ? Et la lecture, une cage, parce que peut-être qu'au fond, cette petite cage est une expression de ce qu'est la grande cage de Guantanamo. Si le pilote brûle, n'est-ce pas aussi parce que les avions de la coalition utilisent des bombes au phosphore ? Alors il ne s'agit plus de savoir s'il y a des bons et des méchants, le bien et le mal. Il s'agit d'essayer de comprendre les mots. Alors est-ce que vous êtes, vous, dans cette démarche zététicienne, dans cet enjeu-là, qui est l'enjeu qui dérange ? Qui dérange ?
J'ai l'impression que la question que vous soulevez, c'est déjà de relancer le questionnement. On en parlait pour les chiffres, ben voilà, on a l'impression qu'il y a des choses qui nous arrivent et que les chiffres parlent d'eux-mêmes ou que les images parlent d'elles-mêmes, etc. Et donc, en fait, il faut réintroduire la question. Ce que beaucoup de gens, en fait, pour reprendre l'exemple des chiffres, beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu sais, moi, les chiffres, j'y connais rien. » Et puis, si c'est un fan de foot, vous lui dites « Ouais, mais alors, du coup... Ah, t'es fan de foot, ils disent « j'y connais pas grand-chose, mais c'est qui le meilleur buteur en fait ? C'est Messi ou c'est Ibrahimovic ?»« c'est Messi. » Je dis « Mais pourquoi ? Mais parce qu'il marque plein de buts. »« Oui, mais Ibrahimovic aussi. »« Oui, mais alors Messi, quand même, il joue contre des équipes plus fortes, et puis il marque, il a une moins bonne équipe, puis il a des gens qui l'aident moins autour de lui, alors s'il arrive à le faire quand même, et puis Ibrahimovic, il marque plus de buts en coup de pied arrêté, etc. etc. » Et en fait, les gens se mettent à poser plein de questions, à être sceptiques, à questionner les données, etc. Ils le font pour le foot, il faut le réintroduire pour les chiffres de la délinquance, je pense, et s'autoriser, ne pas se laisser impressionner par des chiffres et par les images, c'est la même question. On commence tous nos cours par passer une heure et demie à déconstruire ce qu'on appelle le témoignage, nos sens, et à apprendre à être humble vis-à-vis de nos sens, c'est-à-dire à ne pas prendre ce qu'on voit pour argent comptant. Et parce qu'on connaît les illusions d'optique, on connaît les illusions auditives, on connaît plein de processus cognitifs qui font qu'on se trompe. Et partir de là pour effectivement reposer des questions sur le contexte. Et je pense que c'est vraiment le départ, c'est arriver à donner confiance au questionnement et à l'importance de cette...
Mais c'est ce que vous faites, qui est très important, me semble-t-il, est une vraie lecture critique. Nous sommes dans une culture générale qui est celle du marché, celle de la vitesse, de la rentabilité, du retour le plus rapide possible sur investissement, qui n'aime pas tellement la lecture critique. Tenez, regardez Arrêt sur image, qui est une des très, très rares émissions qui s'intéressent au contenu de l'information et à son traitement. Ben, Arrêt sur image, maintenant, c'était autrefois la télé, maintenant, c'est sur Internet. La visibilité de l'arrêt sur image a été réduite, pas par hasard. Et quelques-unes des émissions qui traitent du contenu de l'information et de son traitement ont de moins en moins de visibilité, parce qu'on n'a peut-être pas envie de cette lecture critique. Donc, vous êtes vous êtes dans une posture politique au meilleur sens du mot. Qu'est-ce qu'on partage dans l'enceinte de la cité, là ?
Mais je crois que ce qui se passe, c'est que la simplicité ou l'apparente simplicité de beaucoup de grilles de lecture sont plus séduisantes que de passer, a priori, 3 heures, 4 heures, 3 jours, une semaine, à aller enquêter sur un sujet. Et on peut avoir l'impression d'avoir très bien compris une situation parce qu'elle nous semble vraie. Quand vous disiez, mais pourquoi est-ce qu'on adhère à certaines théories pseudo-scientifiques ? Mais parce qu'elles semblent vraies, elles semblent cohérentes. Et quand on dit, pour reprendre des propos d'Éric Zemmour en 2010 sur le plateau de Salut les Terriens, où il dit la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, donc c'est normal qu'on fasse du contrôle aux faciès. Ça prend 30 secondes à énoncer. Et on se dit, on peut penser, quelqu'un qui dit les choses comme elles sont. Sauf que pour démonter ça, nous, il nous faut 2 heures de cours. Mais c'est passionnant, les étudiants ne s'ennuient pas, ils reviennent, ils sont contents de venir à ces cours-là. Donc on peut le faire de manière sexy, drôle, et en même temps traiter des sujets effectivement extrêmement politiques.
Mais surtout continuer, parce qu'ils ont beaucoup malheureusement.
Les mots, hein. Avec le problème, je pense aujourd'hui, qui est que, comme on le disait au début de l'émission, pour l'instant c'est... essentiellement des initiatives personnelles. Je pense à deux enseignantes à Carcassonne, au collège Le Bastion, là, qui ont monté par exemple un atelier diététique avec des 6e et des 5e. Elles ont fait un boulot formidable et donc elles portent ça à bout de bras. C'est porté par le lycée aussi. Et puis le fait que ce soit des initiatives personnelles fait que si ça se trouve, l'année prochaine, elles n'auront pas de financement. Et donc il y a une déperdition d'énergie qui est terrible. Et je pense qu'il va falloir vraiment passer du temps à essayer d'institutionnaliser tout ça. Parce qu'effectivement, un endroit où on a de la place, ce sont les établissements scolaires et les universités.
On se bat pour ça.
Aurore ?
Oui, je me disais, on pourrait rebaptiser l'émission Zététique, le journal. Ce serait bien, non ?
Ah, moi, ça me déplairait. Je verrais pas du tout. Ce qui m'importe, c'est de conserver la transdisciplinarité.
Ah, bah, écoutez, là-dedans, parce que celle-là, elle est nécessaire. J'ai l'impression que c'est ce que vous pratiquez, au fond.
Oui, hein.
Vous allez sur tous les fronts et dans toutes les disciplines. Y a un mot qui a retenu mon attention. Enfin, il y en a plein. Mais le mot image, il est intéressant parce que l'image, l'imago en latin, dit...
L'imaginaire n'est pas loin. Hein.
L'imaginaire n'est pas loin, justement. Et il y a même une des définitions du mot imago en latin qui est fantôme. C'est quand même dingue. Imago, ça voulait dire fantôme. Donc, si on est dans le fantôme, dans la vision, dans la représentation qui n'est donc pas le réel, on est vraiment dans cet écart entre ce qui est là, bien réel, prouvé, et ce que l'on s'imagine. Et le im d'imago a donné imitari, imiter. Donc on est bien dans cet écart avec le réel. Il y a un autre mot sur lequel je voudrais revenir parce qu'on le dit tellement, c'est doute. Doute, il vient de duo, deux. En fait, c'est l'hésitation entre deux choses. C'est la possibilité de plusieurs voies. C'est le doute s'oppose à l'univocité.
Et à l'affirmation dogmatique.
Voilà.
C'était l'enseignement de Piron.
C'est Piron,
le refus de toute affirmation dogmatique. Ouais. Et on est exactement là-dedans. Le problème, c'est que pour remettre, et souvent on nous le dit, pardon, je termine, j'ai envie de réagir à ça, parce que quelque chose que l'on nous oppose souvent dans l'enseignement, c'est comment enseigner l'esprit critique. C'est en soi une injonction paradoxale. Sois critique. Je veux dire, vas-y, sois comme ça, en fait. Ouais. Et c'est pas ça qu'on veut prôner. Mais finalement, si on le fait avec les bons moyens, et si on donne ces moyens-là aux étudiants, aux élèves, et que si on se fédère tous pour arriver à créer ces cours, à les entretenir, je crois que là, on va arriver à quelque chose qui sera vraiment utile